Auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue au forum Espace Femmes que vous suivez à travers nos 47 radios partenaires sur l'étendue du territoire national. Mais vous pouvez aussi réécouter cette émission à volonté sur notre site internet studiokalangou.org quand vous le voulez. Aujourd'hui, notre thème est axé sur les femmes enceintes, pourquoi les consultations prénatales. La grossesse est une période importante dans la vie de la femme, durant laquelle elle doit prendre soin de sa santé et celle du bébé à venir. Cependant, certaines se montrent négligentes malgré les recommandations des agents de santé. À quoi consiste la consultation prénatale? À quel moment commencer sa consultation? Quelle est l'importance de ce suivi médical de la femme enceinte? Est-il possible de détecter des signes avant-coureurs d'éventuels dangers pour la mère et l'enfant? Est-ce que toutes les femmes ont accès aux soins prénataux? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous accueillons dans ce studio Dr Soumana Aissatou, gynécologue. Bonjour. Nous avons aussi Zahra Alaa Sanchez-Karaou qui est sage-femme. Bonjour. Nous avons aussi Madame Khadija Yansambo, mère de famille. Bienvenue à toutes. Je suis Samira Rouafi pour la présentation de cette émission. Studio Surveiller le déroulement de la grossesse est très important pour éviter certains problèmes qui pourraient survenir lors de l'accouchement. Ma première question vous est destinée, Madame Zahra, vous êtes sage-femme. Dites-nous en quoi consiste votre travail et quel genre d'assistance plutôt apportez-vous aux femmes enceintes?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah et par sa bonté et sa miséricorde de nous avoir accordé ce temps. Donc, pour pouvoir venir répondre à votre forum. Merci. Donc, je suis sage-femme au CSI Antalaho. Et donc, les activités que nous menons, donc, c'était donc le suivi de la grossesse de la femme donc, et de l'enfant, du début jusqu'à la fin. Et dans le but d'un accouchement à moins de risques.
Que doit faire plutôt la femme dès le premier mois de sa grossesse?
Et dès le premier mois, donc, la femme doit se rendre dans un centre où elle désire, parce qu'elle a le libre choix d'aller où elle veut se consulter pour la bonne prise en charge donc, de la grossesse.
Okay. Mm-hmm. Alors, quelles sont les choses à éviter?
Donc, les choses à éviter, comme quoi je n'ai pas bien compris.
Qu'est-ce qu'une femme enceinte doit éviter dès les premiers mois pour éviter d'éventuels problèmes ou bien peut-être même la perte de l'enfant très tôt?
Bon, dès le premier mois, normalement, si elle se sent enceinte, donc elle doit se rendre dans un centre le plus proche parce que maintenant, elle est libre de faire son choix où elle doit être consultée. Elle doit voir donc la sage-femme, donc... qui doit la consulter pour voir les différentes éventualités de la prise en charge.
Merci. Je reviens vers vous, docteur Aissatou. Quelle est la différence entre ce que font les sages-femmes et ce que vous faites?
Merci beaucoup, madame Samira. Non? Mm-hmm. Tout l'honneur est pour nous aujourd'hui d'être avec vous. Donc, la différence entre ce que font les sages-femmes et ce que nous faisons, en fait... La sage-femme, c'est elle qui est en contact ou bien qui voit la femme en première. Donc, c'est la sage-femme qui fait la consultation prénatale, simple en tant que telle. Maintenant, si au cours de la consultation prénatale, la sage-femme constate des problèmes, donc si je peux l'appeler comme ça, ou bien si c'est une grossesse à risque, cette sage-femme l'oriente vers nous, les gynécologues, pour une conduite à tenir. Mm-hmm. Voilà. C'est ça la différence entre, par rapport à la consultation prénatale, oui.
D'accord. Maintenant, en cas de problème, comment est-ce que se passe votre intervention? Directement, c'est à la femme que vous rendez compte ou bien à la sage-femme qui l'a dirigée vers vous?
La sage-femme la dirige vers nous, donc ça dépend du problème en fait. Okay. Si c'est un problème qui est simple, donc après le traitement, on la réoriente vers la sage-femme. Et si c'est un problème donc, qui n'est pas simple, donc, qui nécessite, comment on appelle ça, une prise en charge ou bien une, un suivi rigoureux, donc la femme reste avec nous jusqu'à l'accouchement.
D'accord. Mm. Vous n'intervenez que quand il y a problème ou bien même si tout va bien, la femme doit voir une gynécologue?
En fait, au niveau des CSI, ce sont des... c'est la consultation prénatale recentrée. Donc, c'est une unité qui s'occupe spécialement de ça. Mm-hmm. Si c'est une consultation prénatale simple, c'est la sage-femme qui s'en occupe. Parce que c'est une unité qui est là, donc il y a des dossiers à faire pour la femme et puis tout ça. Là, c'est la sage-femme. Mm-hmm. Les femmes ne sont orientées vers nous qu'en cas de nécessité.
Okay.
Mm, mais pour une consultation prénatale simple, c'est la sage-femme d'abord.
Okay. Merci beaucoup, docteur. Je reviens vers vous, madame Khadija. Vous êtes mère de famille. Dites-moi, vous avez combien d'enfants?
Bonjour. Donc, avant de répondre à votre question, permettez-moi de remercier le studio Kalangu pour cette opportunité. Donc, j'ai 4 enfants et en termes de grossesse, j'ai eu à faire 5 gestations. Donc, 4 enfants, 2 filles et 2 garçons.
Ok. Racontez-nous une de vos expériences.
Bon, en termes de grossesse, parmi les expériences, parce que j'ai eu à faire 5 expériences, mais parmi ces expériences-là, celle qui m'a beaucoup marquée, c'est la première expérience. Parce que j'avais eu ma première grossesse, quand j'avais eu ma première grossesse, j'avais à peu près 24 ans. Et en ce moment-là, j'étais étudiante. Bon, vous voyez comment gérer la grossesse et les études. Mm-hmm. Ça m'a beaucoup plus marqué, la première expérience-là. Et puis, j'avais eu cette grossesse après 7 mois de mariage. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment étrange chez moi. Et en ce moment-là, quand j'avais constaté les retards de 2 à 3 mois, c'est en ce moment-là que je me suis rendue chez une sage-femme et qui m'a demandé d'abord d'aller voir un gynécologue pour me faire l'échographie. C'est en ce moment pour confirmer la grossesse. C'est après qu'elle a commencé à me prendre en charge jusqu'à terme, si je peux le dire.
Okay.
Donc, je n'ai pas rencontré des problèmes particuliers en ce qui concerne la prise en charge de ma grossesse.
On continue notre débat. Eh bien, chers invités, n'oublions pas qu'étant enceinte, la femme a besoin aussi d'une bonne nutrition pour son bien-être et celui du bébé. Et quel genre de nutrition recommandez-vous aux femmes enceintes, Madame Zahra?
Bien, chez la femme enceinte, donc, elle peut manger tout ce qu'elle peut. Elle peut manger tout ce qu'elle peut avoir, tout ce qu'elle a, sauf les aliments peut-être pimentés qui peuvent nuire pour son estomac. Mais tout ce qu'elle peut manger, elle peut manger. Et surtout les aliments riches en fer, qu'on recommande à la femme de manger pour augmenter le taux de du sang donc dans son organisme. Voilà.
D'accord. Paraît-il que la consommation de certains aliments fait grossir le fœtus, comme le lait, pâte de mil, maïs ou boire même de l'eau fraîche. Est-ce que c'est vrai?
Bon, pour les aliments comme le lait, les autres, le maïs, bon, de toutes les façons, la femme enceinte doit manger pour faire nourrir son enfant. Parce qu'elle aussi, elle a besoin d'être alimentée, y compris son bébé. Sinon, si elle ne s'alimente pas bien, donc elle risque d'avoir un enfant de petit poids ou bien un malnutri. Donc, autant de s'alimenter que de
ne pas le faire.
Voilà, que de ne pas le faire. Okay. Et à dire que l'eau fraîche fait grossir le fœtus, c'est pas démontré. Mm-hmm. Que l'eau fraîche fait grossir le fœtus. Donc la macrosomie, c'est lié certainement à, peut-être, c'est lié peut-être à l'homme ou bien à la femme même. Ça dépend. Parce que l'eau fraîche, on ne peut pas dire que l'eau fraîche va faire grossir l'enfant, parce que ce n'est pas démontré.
D'accord. Est-ce que le poids peut impacter le bon déroulement de la grossesse ou même l'accouchement, genre que l'enfant soit un peu plus en surpoids ou un peu plus maigre, moins maigre, je veux dire?
J'ai pas bien compris si la femme elle est maigre ou bien quoi.
Non, par rapport au poids de l'enfant, est-ce que ça peut impacter lors de l'accouchement?
Bon, si c'est une macrosomie, certes, peut-être si c'est une primie ou bien une deuxième, ça serait un peu difficile. Si c'est l'enfant est gros, donc ça serait un peu difficile pour le faire sortir par voie basse. Donc souvent, on l'oriente voir un gynécologue. Donc, au cours des consultations, si on constate que la HU elle est trop grande ou bien à l'écho qui nous confirme qu'il y a une macrosomie, donc on l'oriente vers un gynécologue pour voir la bonne prise en charge. Voilà.
D'accord. Docteur Aissatou, dites-nous, est-ce qu'il est possible de détecter des signes avant-coureurs d'éventuels dangers pour la mère et l'enfant avant ou pendant l'accouchement?
Oui, bien sûr, Madame Samira. Donc, d'où l'importance même de la consultation prénatale, parce que c'est le suivi de la grossesse en tant que telle. Donc, quand on examine la femme, parce que quand j'ai dit examiner, donc l'examen clinique, si je peux l'appeler comme ça, il y a aussi l'interrogatoire qui est là. Même à travers l'interrogatoire, on peut détecter des signes avant-coureurs d'une éventuelle complication. Parce que quand je dis antécédent, c'est tout ce qui concerne la famille de la femme et la femme elle-même. Donc, de là même, donc, on peut avoir, on peut avoir des signes avant-coureurs donc, pour faire une prévention en fait, de ces complications. Donc, au cours de l'examen également, on peut aussi détecter des signes physiques aussi, donc qui peuvent annoncer d'éventuelles complications. D'où l'importance même de la consultation prénatale en tant que telle.
Ok. Selon un article de l'UNFPA, il y a une pénurie mondiale de sages-femmes, soit 900 000. Le ministre nigérien de la Santé a annoncé que le grand défi au Niger, c'est la répartition inégale des sages-femmes. Elles sont toujours concentrées dans les centres urbains au détriment des zones rurales. Avez-vous une idée de la ratio sages-femmes-population au Niger, docteur Zahra?
En ce qui concerne les sages-femmes, vraiment, certes, il y a une... pas assez de sages-femmes dans les zones les plus reculées, surtout. Bon, c'est contenu, surtout, ce n'est pas qu'il n'y a pas les sages-femmes, c'est les recrutés qui causent problème. Parce qu'il y a des sages-femmes qui sont sorties, ça fait combien d'années? Elles sont là, elles attendent pour qu'on les engage. Bon, donc, c'est ce qui fait qu'il y a ce risque, il y a ce manque de sages-femmes. Oui, c'est ce qui fait qu'il y a des manques de sages-femmes.
Est-ce voilà. que toutes les femmes ont accès aux soins prénataux?
Normalement, toutes les femmes ont accès. Avant, il n'y avait pas assez de services de santé, mais maintenant, un peu, dans presque tous les quartiers, il y a des centres où la femme elle est libre d'aller se faire consulter.
Okay.
Voilà.
À quel moment donc interviennent les relais communautaires?
Bon, les relais communautaires interviennent le plus souvent, c'est pour sensibiliser les femmes, les sensibiliser à aller vers ces centres-là. Peut-être il y a des centres qui sont ouverts et que ces femmes-là ignorent. Donc, on fait face, donc on envoie ces femmes relais pour qu'elles puissent aller vers ces femmes, les sensibiliser, que voilà. Et pour aller se faire consulter à temps et bénéficier des activités du centre.
Madame Khadija, dites-moi, avez-vous respecté toutes vos consultations?
Bien sûr. Et pour mes 4 enfants, du début jusqu'à la fin, j'ai toujours respecté mes consultations. Parce que À chaque fois, dès à la première expérience, les sages-femmes nous ont fait comprendre que la consultation prénatale est nécessaire chez une femme enceinte. Donc, pour mes 4 enfants, je vous dis, j'ai toujours respecté les consultations prénatales, de la première à la dernière.
Pendant tout ce temps de consultation, quel était le moment le plus difficile pour vous? Est-ce lors des prises de médicaments ou des piqûres?
Bon, le moment est le plus difficile, vraiment pour moi, c'était dans les centres de santé, il y a vraiment un problème d'accueil. Parce que quand je prends pour mon premier enfant, jusqu'au deuxième même, j'étais pendant les études. Et le jour où je dois aller à la consultation prénatale, j'avais toujours chômé mes cours. Parce que on nous fait comprendre que et les femmes qui vont à l'école ou bien qui vont au service, donc ces femmes-là doivent être prioritaires. Mm-hmm. Mais on les dit, dans la pratique, c'est à désirer, vraiment. Mm-hmm. Parce que c'est ce qui m'a beaucoup... Le moment difficile, c'était la prise en charge. Quand on part, on est obligé de perdre beaucoup de temps là-bas. Donc, pour moi, on ne peut pas dire qu'il y a les malaises, mais vraiment, la prise en charge a été beaucoup difficile pour moi.
Okay.
Mais ça ne m'a pas empêché d'aller. Mm-hmm. J'ai toujours respecté les consultations, mes différentes consultations. Mais vraiment, au niveau de l'accueil et la prise en charge, il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Mm-hmm. Oui.
Merci beaucoup. Madame Zahra, dites-moi, à quoi consistent ces consultations prénatales pour celles qui nous écoutent pour la première fois et qui n'ont pas connaissance sur ça?
Et donc, la consultation prénatale, donc, ça consiste à un bon suivi de la mère et de l'enfant pour qu'elle puisse mener à bien sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Et donc, c'était ça.
Alors, à quel moment doit-on commencer sa consultation prénatale?
Dès qu'elle se sent enceinte, elle doit venir.
Okay. Combien de fois une femme enceinte doit se faire consulter? Qu'est-ce qui est recommandé?
Bon, ce qui est recommandé avant, pour la CPN recentrée, on demande à faire le minimum C4 et plus. Mais maintenant, c'est jusqu'à 8 CPN. La première dans au premier trimestre et les 7 consultation de suivi. Mm-hmm. Parce qu'à chaque fois, il faut suivre la femme pour voir s'il n'y a pas une éventuelle complication. Parce que la complication peut survenir à tout moment, quoi. Donc, il faut faire un suivi de près pour pouvoir détecter à temps et orienter la femme, si possible, ou bien la prendre en charge même à notre niveau. Mm-hmm. Voilà.
D'accord. Ma prochaine question vous est adressée, docteur Aïssatou, mais avant. En cette année 2021, 84% des femmes ont bénéficié de soins prénatales de la part d'un prestataire formé au cours de leur grossesse, contre 46% en 2006. On constate une nette amélioration des chiffres. C'est selon les résultats préliminaires de l'enquête nationale sur la fécondité et la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Publié par l'Institut plutôt national de la statistique le 28 septembre dernier. 4 femmes sur 10 ont effectué au moins 4 visites prénatales recommandées contre 33% en 2012. Comment expliquez-vous cela?
La hausse, l'augmentation en termes de fréquentation des centres de santé.
Exactement.
Moi, je pense que c'est surtout maintenant dans chaque quartier, il y a au moins une case de santé. Oui. Avant, on n'avait pas toute cette panoplie-là de structures sanitaires. Mais maintenant, au moins, en tout cas, dans chaque quartier-là, au moins, il y a une case de santé. Donc, il y a aussi la sensibilisation qui se fait tout le temps. Je pense que c'est dû à ça.
D'accord, merci. Surtout en 2020-2021, la pandémie de la COVID-19 aurait réduit la disponibilité des personnels de santé et l'accès aux services de santé de la reproduction. Est-ce que c'est le cas au niveau de vos services? Les femmes ont arrêté de fréquenter les CSI pour les consultations prénatales?
Au niveau de notre service, en tout cas, nous, on n'a pas fait cette remarque-là. Donc, les femmes venaient avec la sensibilisation. Mm-hmm. Donc, on demande juste le lavage des mains, le port des masques. Et on respecte donc les prises en charge pour le COVID. Mm-hmm. Voilà. Sinon, vraiment, nous, on n'a pas remarqué cette diminution de la fréquentation des femmes. À notre niveau.
Merci
à chaque fois, les femmes viennent, y compris les sensibilisations des femmes relais qui continuent pour les faire venir en consultation. Voilà.
Ok, merci beaucoup, Madame Zahra. Parlons d'enjeux maintenant avec vous, Docteur Aïssatou. Et quelles sont les conséquences que court la femme enceinte qui ne respecte pas toutes ses consultations prénatales?
Oui, donc, on l'a dit. La femme qui ne respecte pas toutes les consultations prénatales donc peut avoir des complications. Parce qu'il y a des complications qui surviennent comme ça. Hein. On ne peut pas prévenir en fait la survenue d'une complication au cours de la grossesse. Donc, elle peut avoir une complication à tout moment. Par exemple, les fausses couches. Il y a l'accouchement prématuré. Il y a les saignements au cours de la grossesse. Donc, pour que les gens puissent comprendre. Donc, et tout ce qui s'ensuit.
D'accord, merci. Place maintenant à notre rubrique habituelle portrait. Aujourd'hui, nous vous présentons le portrait d'une femme, sage-femme. Elle s'appelle Madame Hamidou Romana. On l'écoute et on revient juste après au studio.
Née en 1979 dans le département de Magaria, Madame Hamidou Romana commença les études à l'école primaire fille de Magaria.
J'ai fréquenté l'école primaire fille de Magaria en 1982. Mm-hmm. Donc, j'ai fait même mes collèges à Magaria et après, j'ai continué à Niagne.
Depuis toute petite, Romana rêvait de travailler avec les femmes et surtout de les aider.
L'intérêt du métier, vraiment, c'est pour aider les femmes. Même moi, je suis femme, donc c'est pour aider les femmes. Depuis mon jeune âge, vraiment, le métier de la sage-femme, ça m'a beaucoup intéressée et ça m'a plu.
En 13 ans de service, Romana a eu beaucoup de succès, tant sur le plan professionnel que social.
Les avantages, j'ai eu beaucoup de formations, puisque vraiment, ce sont des appuis et puis ce sont des connaissances approfondies. J'ai fait beaucoup de formations jusqu'à ce jour. Même avec la population, j'ai eu des avantages. Le fait même qu'on te salue, même si c'est en cours de route, il y a des femmes qui me saluent, mais moi, j'ai même oublié. Sur quoi? Ils disent que... Une fois, madame, c'est toi qui m'avais fait l'accouchement.
Toujours souriante et patiente, Romana a su gagner le respect de la population de Gaya.
Qu'est-ce qu'il y a, c'est Mouti, alhamdoulilah.
Vraiment, nous disons Dieu merci. Ça aurait été qu'on a deux à trois femmes comme elle ici, qui, quand les femmes enceintes viennent, elles les accueillent avec fierté, toutes souriantes, comme si elle a peur d'elles. Nous n'allons jamais nous plaindre. Vraiment, Romana, c'est une femme qui maîtrise son travail et elle ne se fâche jamais. Vous savez, en matière de travail, vous rencontrez des gens qui viennent avec une mauvaise humeur au service. Mais elle, Romana, même si tu l'insultes, elle sourit et c'est elle-même qui te console.
Si tu vas dans le centre de santé et que tu la trouves, tu auras l'esprit tranquille. Parce que quand j'étais partie pour mon premier accouchement, c'est elle qui s'est occupée de moi. Mais je pense qu'elle m'a oubliée. C'est grâce à son humanisme que j'ai appelé ma fille Romana pour qu'elle puisse lui ressembler.
Selon elle, la patience est primordiale pour avoir une bonne entente entre la population et les agents de santé. Mariée et mère de 6 enfants, Romana continue de grimper les échelles sur le plan professionnel, tout en aidant les femmes enceintes et les enfants.
Retour au studio, je commence d'abord avec vous, Madame Zahra, vous qui êtes sage-femme. Que pensez-vous de ce que vous venez d'écouter?
Normalement, d'être une sage-femme, quelqu'un et une femme qui quitte chez elle pour venir vers toi, normalement, tu dois l'accueillir à bras ouverts pour pouvoir résoudre au grand maximum ses problèmes de grossesse, pour le suivi, pour qu'elle soit contente, parce que l'accueil là, ça guérit à 50% la femme. Elle sera heureuse, c'est qu'elle vit, et même si elle est malade, si elle est venue vers toi, si tu l'accueilles, l'accueil là, ça va la guérir à 50%. Donc le reste sera pour la prise en charge encore. Donc, voilà pourquoi les clients donc remercient Roumana et comme une sage-femme exemplaire. Donc, à remercier. Voilà.
Merci. Et vous, docteur Aissatou, que pensez-vous de ce que vous venez d'écouter?
Ce que je viens d'écouter, donc oui, c'est bien. Donc, je dirais même que c'est super. Normalement, parce que l'accueil là, c'est très important puisque ça crée un climat de confiance entre prestataire et malade, ou bien entre prestataire et parturiente, si je peux l'appeler comme ça. Donc, quand tu n'accueilles pas bien ton malade ou bien ta malade, il ne va jamais se confier à 100% à toi. Et tant qu'il y a des éléments qui manquent, la prise en charge ne sera pas de qualité. Donc, l'accueil, normalement, doit faire partie du quotidien de tout un agent de santé. Je dirais même que c'est une obligation, normalement, de bien accueillir son malade. Donc, voilà.
Merci. Madame Khadija, je vais vous demander une petite question. Est-ce que vous avez déjà rencontré, je rappelle que vous êtes mère de famille, vous avez déjà rencontré des sages-femmes comme Roumana au cours de vos consultations prénatales?
Beaucoup même. Il y a plein de Roumana parmi les sages-femmes. Mais il y a aussi d'autres qui sont contraires à Roumana. Donc, vraiment, avec 4 expériences ou 5 même, et je peux vous dire qu'il y a vraiment des Roumana. Mais ces Roumana-là ne sont pas nombreuses. On comprend? Parce que nous sommes les mères et on fréquente les centres de santé et surtout quand on n'est pas bien habillé. Donc, en ce moment-là, on rencontre pas mal de problèmes. Et vraiment, il y a des Roumana, mais pas assez. C'est tout ce que je peux vous dire.
Merci beaucoup. Ma prochaine question vous est adressée, Madame Zahra. Vers la fin de la grossesse, certaines femmes font la marche. Dans quel but ce sport est-il recommandé?
La marche, de tous les façons, ça fait du bien. Donc, s'il n'y a pas de risque pour la grossesse, donc la femme enceinte peut marcher autant qu'elle veut. De toutes les façons, ça fait... C'est pour son bien-être. Ça peut l'aider et dans dans beaucoup de choses, ça peut l'aider. Pour la descente de la tête, ça peut l'aider. Pour la circulation aussi, vasculo-cérébrale et musculaire et respiratoire aussi, ça peut l'aider. En tout cas, c'est important pour la femme. Pour la marche, ça ne cause pas de problème. Elle peut marcher autant qu'elle veut. Sauf si cette grossesse-là a un risque.
D'accord.
Oui, oui. Le risque, par exemple, si c'est une femme qui est en train de faire ménage, donc autant se reposer. Mais s'il n'y a aucun risque, la marche, ça fait du bien pour la femme enceinte.
D'accord. Oui. À quel moment doit-elle commencer cette marche?
Bon, il y a dit la marche, à n'importe quel moment, elle peut marcher parce que ça fait partie des... la marche, à n'importe quel moment, d'autres le font en fin de grossesse. C'est pour pouvoir améliorer peut-être la descente. La descente, ça agit. Pour la descente, l'enfant va bien se positionner pour la sortie. Et vraiment, comme je l'avais dit, et pour la circulation, donc cérébro, cardiovasculaire, donc pour la respiration aussi, pour les articulations. En tout cas, ça fait du bien de la marche.
D'accord.
Oui, oui. Même en début, ça fait du bien. Et à la fin aussi, ça fait du bien. S'il n'y a pas de risque, j'ai bien dit. S'il n'y a pas de risque de... S'il n'y a aucun risque, vraiment, la marche, ça fait du bien.
D'accord, merci beaucoup. Madame Khadija, est-ce que vous avez eu à marcher pendant vos grossesses?
La marche, comme l'a dit la sage-femme, est importante pour la santé de la femme et de son enfant. Donc, elle nous rappelle ça toujours. Et c'est pourquoi, avec mes 4 grossesses, j'ai toujours respecté la marche. Mais j'ai toujours fait la marche dans le dernier mois, c'est-à-dire 9e ou 8e mois, comme ça. Mm-hmm. Je commence la marche et j'ai toujours respecté la marche.
D'accord, merci. Docteur Aissatou, est-ce que y a un problème si la femme marche ou si elle ne marche pas?
La marche, c'est un type de sport. Et le sport est important pour tout le monde. Donc, cette marche chez la femme enceinte, on la recommande surtout à partir de 37 semaines d'aménorrhée. Quand je dis 37 semaines d'aménorrhée, donc c'est en ce moment que la femme est à terme. Donc, même si elle accouche, il n'y a pas de problème pour son enfant. Donc, cette marche, comme l'a dit la sage-femme, donc, favorise une bonne descente de la présentation. Donc, et la descente de la présentation favorise la préparation du col, en fait, pour l'accouchement. Parce qu'il faut que le col s'ouvre pour qu'il y ait un accouchement. Donc, voilà pourquoi on recommande cette marche, comme l'a dit, comment on appelle ça, Khadija. Donc, elle dit qu'on lui a toujours recommandé ça vers 8 mois de grossesse, non? Vous dites. Donc, voilà pourquoi cette marche, on la recommande chez les femmes. C'est pour, en fait, préparer l'accouchement. Voilà.
Ok. Alors, docteur, comment est-ce que la femme doit se comporter pour une bonne posture du fœtus, selon vous?
Il n'y a pas eu d'études par rapport à ça. La femme peut se positionner dans n'importe quelle position. Hein. La position qui la met, dans laquelle elle est à l'aise, si je peux l'appeler comme ça. Il n'y a pas de, position en tant que telle où on dit, donc il faut vous positionner comme ça, là, pour ne pas... Non. Il n'y a pas eu d'études sur ça, rien du tout. La femme se positionne comme elle veut.
Parce que généralement, on dit qu'elle doit seulement être sur les deux côtés avant de se tourner. Et avant de se tourner sur l'autre côté, il faut s'asseoir. D'habitude, c'est ce que les vieilles mères et les parents disent.
Ah oui, bon, oui, mais il n'y a pas eu d'études pour ça. Mais on dit en décryptus latéral gauche. C'est ça, non? Donc, c'est très bien ça. Ça favorise et c'est surtout bénéfique pour le fœtus. Le décryptus latéral gauche, sur le côté gauche, si je peux l'appeler comme ça. Donc, ça permet à l'enfant de bien respirer. Donc, voilà, c'est tout. Hein. Sinon, tout ce que les vieilles mamans ont dit là, je ne sais pas, il n'y a pas eu d'études sur ça. Donc, quelque chose sur laquelle il n'y a pas eu d'études, on ne peut pas venir faire des affirmations gratuites.
D'accord. Voilà. Madame Zahra, avez-vous un dernier mot à dire avant la fin de notre émission?
Bon. Moi, ce que je vais dire, peut-être, c'est attirer l'attention des femmes, qu'elles sont libres d'aller où elles veulent se consulter. Et on est là pour les accueillir, de ne pas avoir ce stress-là d'aller vers un centre ou bien un autre pour dire que cette sage-femme-là, elle est méchante ou bien non. Il faut que ces femmes-là voient ce qui est devant elles. Quoi, par exemple, la grossesse, le suivi d'une bonne, le suivi de la grossesse, donc les différents examens à faire, tout ça là, parce que ça dépend aussi des CSI ou bien parce que dans d'autres CSI, il n'y a pas de laboratoire pour faire certains examens. Il faut aller se déplacer par-ci, par-là pour faire les recherches. Il y a tout ça là aussi. Notre première vision, c'est avoir la femme, bien la suivre, et pour qu'elle puisse avoir son enfant sur les jambes en train de sourire. C'était notre objectif. Voilà.
Et vous, Madame Khadija, avez-vous un dernier conseil à donner aux nouvelles mamans ou celles qui sont déjà habituées à avoir des bébés?
Bon, mon conseil va à l'endroit d'abord de mes chères femmes, mères, de ne pas hésiter à aller dans les centres de santé en cas de grossesse. Parce que et la sage-femme, le docteur et la sage-femme viennent de démontrer que vraiment il est important d'aller dans les centres de santé et de se faire et consulter pour prendre en charge la grossesse pour éviter des risques. Donc, l'appel que je lance à mes chères femmes d'aller dans les centres de santé en cas de besoin. Et à l'endroit des sages-femmes, de respecter leur engagement vis-à-vis de l'État, comme quoi de respecter leur cahier des charges, c'est-à-dire leur travail, et d'accueillir ces femmes-là. Parce que quand il y a l'accueil, les femmes vont avoir le courage d'aller dans les, de fréquenter les centres de santé. Mais quand il n'y a pas l'accueil, il n'y a pas une bonne prise en charge, donc on hésite d'aller. C'est pourquoi pas mal de femmes sont en train de rencontrer des risques parce qu'elles hésitent à aller. Donc, les sages-femmes doivent toutes être comme Romana, que nous venons de découvrir tout de suite.
D'accord, merci. Et vous, docteur Aïssatou, avez-vous un dernier mot à dire?
Oui, mon mot à dire, donc, mon dernier mot, c'est que j'encourage toutes les femmes, toutes sans exception, si elles sont enceintes, donc, de faire, d'aller vers les centres de santé, pour les consultations prénatales et de respecter les consultations prénatales aussi. Parce qu'on voit, il y a des femmes qui font une seule consultation prénatale, il y en a qui ne font que deux. Donc, alors que le pronostic de l'accouchement, même, c'est au troisième trimestre de la grossesse. Donc, c'est important, c'est très important, c'est très important de respecter les rendez-vous. Chaque consultation prénatale est importante, du premier jusqu'au troisième trimestre. Donc, je leur dis aussi que les centres de santé, là, sont pour elles. C'est leur droit. La consultation prénatale est gratuite. C'est pour que tout le monde puisse avoir accès. C'est pour ça qu'on a rendu ça gratuite. On ne paye rien pour la consultation prénatale. Donc, voilà mon dernier mot.
Merci beaucoup, docteur. Comme cher fidèle auditeur au programme du studio Kalango, vous avez écouté avec nous l'avis de docteur Aïssatou, mais aussi de madame Zara, qui est sage-femme, et également de la mère de famille, Khadija. Chacune a donné son avis. Les docteurs ont donné leur avis par rapport à leur travail et comment doit se comporter une femme enceinte, les choses à éviter et ce qui est bien aussi pour elle par rapport aux consultations prénatales qu'elle doit respecter. C'est ici que prend fin cette émission sous le thème « Femmes enceintes, pourquoi les consultations prénatales ?» Merci à vous, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence. Nous étions avec Dr Soumane Aïssatou, qui est gynécologue, Madame Zara Alassane Chekaraou, qui est sage-femme, et Madame Khadija Yansambou, qui est mère de famille. À la présentation, c'était Samira Rafi et la technique a été assurée par Issa Laouli. Merci à vous. Maintenant, place à notre rubrique Affairage. Bonne écoute.
Affairage.
C'est bon, mon bébé. Tu veux les seins, n'est-ce pas? Attends, je vais te laver.
Bonjour, ici. Ah, Safi, qu'est-ce qui se passe? C'est ton enfant qui pleure comme ça? On peut l'entendre depuis la porte.
Cousine, je te jure, je ne sais pas pourquoi il pleure. Au début, j'ai pensé qu'il voulait que je le mette au sein. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Il ne dort pas beaucoup non plus. Et c'est là depuis 3 jours.
Depuis 3 jours, et tu n'es pas allé voir un pédiatre?
Il n'a rien, je te rassure. Sinon, mon instinct maternel m'aurait alarmée. Et il n'a pas de fièvre. C'est sûrement un caprice.
Ah, tu es médecin pour savoir qu'il n'a rien? Et qui te dit que c'est seulement quand l'enfant a de la fièvre qu'il est malade? Ce sont ces genres de négligences qui peuvent tuer beaucoup d'enfants, parce qu'on ne les amène pas voir un médecin à temps.
Et cousine, pourquoi tes longues études là te montent souvent à la tête? Tu es trop négative et tu vois le mal partout. Je t'ai dit, hein, mon enfant n'a rien.
On n'a pas besoin de faire des longues études pour savoir que cet enfant souffre. Sinon, pourquoi pleurerait-il? Donc, s'il n'ouvre pas sa bouche pour te dire, hein, « Maman, j'ai mal ici », tu vas continuer à le regarder souffrir comme ça?
Non, cousine. Tu le sais bien que les nourrissons ne parlent pas.
Ah, donc s'il lui arrive quelque chose, tu en seras la seule responsable.
Arrête de me faire peur, s'il te plaît. Mais il pleure et qu'il n'a pas de la fièvre. Tu crois qu'il souffre de quoi? Oh mon bébé, qu'as-tu à pleurer comme ça?
Sans te mentir, je ne sais vraiment pas de quoi souffre ton enfant. Mais ça peut être n'importe quelle maladie qui peut s'aggraver si elle n'est pas diagnostiquée et traitée. Il est temps maintenant de l'amener voir un spécialiste pour en avoir le cœur net.
Oh yo, mon bébé, je t'ai fait du mal sans le savoir. Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire?
Écoute, ce n'est pas le moment de pleurer toi aussi. Je t'accompagne au centre de santé. C'est plus judicieux. Prends le bébé.
D'accord.
Madame, d'après les constats et les résultats des analyses, votre enfant est atteint de la méningite. Mais rassurez-vous, la maladie n'est qu'à ses débuts. On le prend en charge immédiatement.
Eh Seigneur, mon enfant.
Sèche tes larmes, c'est bon. Heureusement qu'on n'est pas venu trop tard.
Cousine, vraiment merci beaucoup. Si tu n'avais pas été là, je ne sais pas ce qui serait passé dans quelques jours.
Tu n'as pas à me remercier, surtout faisons vraiment attention. Dès qu'on remarque quelque chose de suspect chez nos nourrissons qui ne communiquent pas encore pour dire où ils ont mal, il faut se précipiter chez les spécialistes pour éviter toute catastrophe.
Je ferai vraiment plus attention. Je ferai passer ton conseil aux voisines aussi. Attends-moi là près du bébé. Je vais dehors appeler son père pour l'informer de la situation.